Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview de blogueur-pro.com. Je suis actuellement avec Éric Dupin, qui est l'un des blogueurs français les plus connus, puisqu'il est blogueur de Presse Citron, qui est l'un des blogs français les plus visités au monde. Donc bonjour Éric.
Et bonjour Olivier.
Alors est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas ?
Oui, bah écoute, voilà, je m'appelle Éric Dupin, je travaille depuis... On va dire une petite quinzaine d'années, mais plutôt une grosse dizaine d'années dans le web. Et je gérais avant une agence web qui était spécialisée dans la réalisation de sites web et puis de la formation.
D'accord.
Et j'ai peu à peu changé un petit peu, enfin fait évoluer mon activité, puisque j'ai ouvert mon blog Presse Citron en 2005. Et enfin, j'ai déposé le nom de domaine en début 2003. J'ai commencé un petit peu à bricoler, à bloguer en 2003, mais la version actuelle du blog, telle qu'on la connaît, date de 2005. Et depuis, j'ai consacré une grosse partie de mon temps au blog. En fait, c'est venu un petit peu par hasard, puisque j'ai commencé à une période où il n'y avait pas énormément de blogs, donc il a acquis une petite notoriété relativement rapidement. Et ce qui effectivement m'a incité à y consacrer du temps, puisque c'est quelque chose qui m'intéressait pas mal. Et aujourd'hui, c'est mon activité principale, on va dire à plein temps, ou blogueur professionnel, comme on veut, sachant que je garde quand même une partie de mon activité de conseil et de consultant auprès de certains clients que j'avais soit de longue date, soit de l'époque agence web, soit de nouveaux clients qui me contactent aujourd'hui par la visibilité que m'apporte le blog.
D'accord, donc tu as créé Presse Citron en 2005, c'est ça, hein?
Ouais,
Donc
ouais.
ouais, effectivement, c'est la préhistoire de la blogosphère en France. À l'époque, les blogs, la plupart des personnes considéraient que c'était un journal intime sur le web, et très peu avaient l'idée de proposer du contenu régulièrement qui ressemble à celui d'un magazine.
C'est exactement ça. Moi, en fait, quand j'ai commencé, j'avais absolument aucune idée de d'où j'allais. C'était effectivement comme la plupart. Des blogueurs à l'époque et même peut-être encore aujourd'hui, c'était un carnet personnel et c'était totalement amateur. Et puis surtout sur la première période 2003-2005 où en 2 ans j'ai dû écrire royalement 10 billets et c'était des billets vraiment personnels de point de vue. Alors ça parlait un peu de nouvelles technologies mais pas uniquement de ça. Et vraiment j'écrivais ce qui me passait par la tête. C'était comme ça sortait brut. Et puis en 2005. En 2005, voilà, j'ai eu une petite période qui était un petit peu plus calme et qui me permettait de réfléchir un petit peu à ce que j'avais envie de faire. Et donc, le format blog me plaisait et m'attirait depuis quelques temps. Et je m'y suis mis en me disant, voilà, je vais faire un blog qui parle de ce que je sais, de ce que je connais le mieux, actuellement, professionnellement en tout cas. Donc, je vais faire un blog sur les nouvelles technologies et sur les tendances du web. Voilà, mais c'est parti comme ça. Et d'ailleurs, je l'ai jamais dit, mais à l'époque, j'avais d'autres idées de blog, puisque j'avais lancé parallèlement un blog sur les voitures, un blog auto,
Ah oui, tiens.
que j'ai. Oui, ça, c'est vrai que ça me revient maintenant, mais en fait, et j'avais lancé aussi un blog sur la musique. Donc, j'avais envie de lancer quelques blogs comme ça, thématiques. Et puis,
D'accord.
en fait, il se trouve que c'est le blog Presse Citron qui a pris le dessus très rapidement sur les autres, parce que naturellement, j'écrivais plus facilement sur ce sujet dans la mesure où il n'y avait pas encore énormément de blogs qui parlaient des tendances du web en 2005, d'une part, et d'autre part, j'écrivais plus naturellement sur un sujet dans lequel je baignais au quotidien. Et puis, je me suis aperçu qu'effectivement, c'était chronophage et qu'il me paraissait assez illusoire de gérer plusieurs blogs en même temps. Donc, j'ai fermé au bout de quelques semaines les autres blogs. Et puis, j'avais même lancé aussi un blog sur les podcasts. J'avais lancé aussi un site sur les blogs professionnels déjà en 2005.
Wow.
Et ouais, qui s'appelait tout simplement blogpro.fr, que j'ai fermé aussi,
Ah bah tiens.
parce que voilà, que j'avais pas le temps de m'en occuper. Et du coup, je me suis dit plutôt que de me disperser sur plusieurs blogs, je vais me concentrer sur un seul et j'essaierai de ramener sur ce blog Presse Citron les sujets que je peux traiter dans d'autres blogs en leur apportant un angle un petit peu high-tech web. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un blog high-tech, tendance du web, mais dans lequel je ne m'interdis pas de parler éventuellement aussi de musique, éventuellement aussi d'auto quand il y a une technologie intéressante.
D'accord, alors ça c'est très intéressant. Est-ce qu'au départ, quand tu as créé tous ces blogs, tu avais une envie, une volonté de gagner de l'argent avec ces blogs et c'est pour ça que tu t'es dit, je vais tester plusieurs marchés, on verra, ou tu as une autre démarche, comment ça s'est passé?
Non, en fait, c'était pas ça. Quand j'ai lancé Presse Citron, c'était pas du tout ça. C'était écrire. Voilà, j'avais envie d'écrire, de publier parce que j'ai toujours bien aimé l'écriture. J'ai toujours été un gros consommateur de médias et de presse. Et passer de l'autre côté avec les moyens que fournit un blog, c'est-à-dire quelque chose qui coûte rien et qui est facile à mettre en place, je trouvais ça intéressant. Après, la deuxième étape, c'était effectivement d'essayer de tutoyer un peu un vieux rêve, c'est-à-dire de créer, de faire en sorte d'avoir son média personnel et d'arriver à en vivre. Voilà. Moi, je me voyais un petit peu comme ça, comme un artisan un petit peu du blog ou du web, et qui publiait chaque jour ses points de vue et ses informations, et qui éventuellement pourrait peut-être un jour caresser l'espoir d'en tirer quelques revenus. D'en vivre, j'y pensais pas, puisque j'avais bien en tête de continuer mon activité professionnelle principale. Et puis d'en vivre, enfin d'en tirer des revenus conséquents, je l'envisageais pas une seconde, parce que, mais en fait, en même temps, je regardais un peu ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique, et je me disais que bon, il y avait des choses qui étaient en train d'arriver, que c'était probablement possible à une plus petite échelle, et c'est comme ça que je me suis lancé, quoi, avec
D'accord.
une petite dose d'inconscience, et puis voilà, envie de faire quelque chose d'un petit peu différent et de créer son propre média. C'était vraiment ça l'idée qui sous-tendait ce que j'ai fait à cette époque-là.
Donc rapidement, tu te focalises sur un seul blog, Presse Citron.
Ouais.
Comment ça s'est passé au départ? Combien de temps ça a mis avant que le blog commence à être connu, visité, que tu aies des commentaires et tout ça?
Il a commencé à. Donc, en fait, la version telle que je l'ai lancée, c'est le 5 juillet 2005, et en fait, en octobre-novembre, j'ai commencé à sentir un petit frémissement. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir quelques commentaires durant l'été. Alors, quand j'avais un ou deux commentaires sur un article, j'étais très content. Et au début, c'est toujours un peu les mêmes personnes qui commentent. Et puis après, quand vous vous apercevez que c'est des gens que vous ne connaissez pas et qui viennent de tous horizons, ça commence à être un petit peu excitant.
Oui.
Donc, c'est ce qui s'est passé sur les 6 premiers mois. Et je crois que j'ai atteint les 1000 visiteurs uniques par jour, qui est un cap qui me paraissait absolument énorme et fatidique à l'époque. Pour un blog totalement indépendant qui n'était pas du tout optimisé pour le référencement, qui était même dans un sous-domaine free, avec un template qui était avec des URL qui n'étaient pas réécrites, enfin de tout ce qu'il faut pas faire pour être bien référencé.
Effectivement.
ce qui était effectivement encore à l'époque le dernier de mes soucis. Et en fait, je suis arrivé, oui, c'était en novembre 2005, j'ai dû atteindre les 1000 visiteurs uniques, et bon, je me suis dit, tiens, c'est sympa, il se passe un peu quelque chose. Je crois que c'est d'ailleurs à cette époque que j'ai dû mettre les premiers encarts AdSense qui devaient me rapporter quelques euros par mois, royalement.
D'accord, donc waouh, t'as atteint les 1000 visiteurs par jour en moins d'un an en fait.
Oui, en 6 mois, mais oui, c'est vrai, en 6 mois. Mais bon, je m'y étais employé parce que quand même, de juillet, enfin, dès que j'ai commencé à me dire, allez, j'écris régulièrement, j'y ai consacré immédiatement, on va dire, 30% de mon temps, et ce qui correspondait à 3 ou 4 articles tous les jours. Donc, quand je me suis dit que je m'y mettais, depuis ce jour-là, depuis le 5 juillet 2005, je crois que j'ai jamais lâché l'affaire. Et je me suis toujours imposé d'écrire au moins 3 ou 4 articles par jour minimum, voire plus. Et si on remonte dans les archives, on retrouvera de cette période-là un rythme de publication qui était assez important. Et donc, forcément, ça a favorisé ben, un petit peu le référencement quand même, même si le blog n'était pas du tout optimisé. Et ça a favorisé une certaine visibilité dans la mesure où on n'était pas très nombreux à l'époque. Et donc, voilà, j'ai fait 2, 3 articles qui ont dû être repris un petit peu ailleurs, qui ont bénéficié de backlinks. Moi-même, à l'époque, j'étais assez actif dans les blogs des autres, c'est-à-dire que je commentais pas mal ailleurs. Je le fais moins maintenant parce que c'est juste une question de temps. Je lis beaucoup, mais j'ai moins le temps de commenter. Mais à l'époque, je commentais plus. Il y avait une espèce d'effervescence qui fait que déjà dans la sphère des rares blogueurs, on pouvait se constituer une audience assez rapidement.
Ouais, d'accord. Ok.
Mais
Ouais.
bon, c'était du boulot, quoi. Enfin, je veux dire, c'est 1000 premiers visiteurs uniques. Ils sont pas arrivés par hasard. C'est parce que j'ai consacré quand même de longues heures pendant les 6 premiers mois, qui était à l'époque donc un hobby. Et aujourd'hui, j'y passe autant de temps, enfin, j'y passe même plus de temps que ça, mais aujourd'hui, la donne est différente puisque j'arrive à peu près à en vivre. Donc, c'est un boulot. À l'époque, c'était un hobby, et c'était un hobby qui me prenait beaucoup de temps. Donc, le curseur n'était pas placé au même endroit.
Donc, au départ, la passion, la motivation d'écrire, de te faire connaître, de diffuser un message. Et puis, tu as basculé sur le blog, tu es devenu blogueur professionnel. On va en parler dans un instant. Alors, j'en profite pour glisser un conseil à ceux qui nous écoutent. Étudier les archives des blogueurs qui ont réussi, parce que c'est ça qui est génial avec les blogs, c'est qu'on peut plonger dans les archives et retrouver les tout premiers articles publiés, et c'est souvent très intéressant de regarder un petit peu l'évolution qu'il y a eu au niveau de la ligne éditoriale, de la fréquence de publication des blogueurs. Donc, ils peuvent aller sur Presse Citron et puis cliquer sur archives pour voir les plus vieux articles. Donc, tu arrives quand même à 1000 visiteurs par jour très rapidement. Donc, tu me dis, à l'époque, tu avais un sous-domaine free, tu n'étais pas du tout optimisé pour le référencement, et tu commençais à gagner quelques euros sur AdSense. Comment tu as commencé à basculer, basculer au niveau de ta vision en te disant, OK, là, il y a vraiment quelque chose, je peux commencer à devenir professionnel là-dessus, il faut que je m'intéresse au référencement, il faut que je fasse, que je gère un peu plus professionnellement tout ça. Comment ça s'est passé, cette transition?
Moi, je pense que c'est arrivé à peu près au même moment, ou plutôt début 2006, où on a commencé à voir arriver pas mal de blogs sur le même sujet, et puis des blogs sur d'autres thématiques, et surtout il y a eu un effet de buzz, un effet médiatique, où les médias traditionnels, la presse notamment, a commencé à vraiment s'intéresser au sujet, je dirais pas au phénomène, mais pour l'instant, mais au sujet, et à contacter des blogueurs qui étaient réputés avoir été parmi les premiers, les plus connus. Alors moi, j'étais pas du tout dans les plus connus. Moi, pour moi, à l'époque, j'étais un tout petit blogueur pas connu, et je regardais des grands blogs pour moi de stars qui étaient même arrivés avant moi, enfin stars entre guillemets du blog, hein, on se comprend, qui étaient des gens comme Laurent Glohagen de Embrun, Loïc Lemeur. Et puis quelques autres comme ça, Tristan Nitto, qui avaient tous commencé avant. Et pour moi, je me disais, c'est intéressant parce que c'est des gens que je suis, qui ont un point de vue, qui ont des choses à dire. Et puis ils ont acquis avec ça une certaine notoriété. Eux, enfin, à part Loïc, mais lui, c'était un business, c'était un peu à part. Mais les autres ne cherchaient pas forcément à monétiser. Mais je trouvais ça intéressant. Et puis un jour, je me suis un peu retrouvé de ce côté-là, et je me suis dit bon, effectivement, moi, je vais peut-être essayer de faire le choix d'amortir ou de gagner un petit peu ma vie en relation avec le temps que j'y passe, quoi. Donc c'était ça. C'était pas encore. J'étais pas du tout dans l'idée de me dire je vais passer à plein temps, je vais faire que ça. Ça aurait été complètement, à mon avis, utopique en 2006. Mais à cette époque-là, je me suis dit bon, je vais essayer de me structurer un petit peu. Et c'est un travail, ça il faut le dire aussi, je pense aux gens qui ont envie de faire ça, c'est un travail qui n'est jamais fini. C'est-à-dire que j'ai pas dit voilà, début 2006, je vais me structurer, je vais faire ceci, cela, je vais me faire une checklist de 10 points et puis ça sera fait. Non, c'est toujours, c'est de la matière vivante et on est toujours en train de se remettre en question, même si ça n'apparaît pas, si ça n'est pas visible sur la partie visible du blog. Mais moi, il se passe pas une semaine ou voire un jour sans que je fasse pas quelque chose sur Presse Citron pour l'améliorer, pour travailler sur quelque chose, changer un bout de code, changer un détail qui se voit pas forcément mais qui va rendre la chose plus agréable, plus navigable, etc. Donc j'ai toujours en gros une checklist d'une dizaine de points à faire que sur lesquels je travaille en permanence. Donc je m'y suis mis à ce moment-là. J'ai dû effectivement commencer. Je crois que la première chose que j'ai fait effectivement, c'est de reprendre mon domaine Presse Citron que j'avais depuis quelques années et puis de mettre le blog dessus et de prendre un hébergement un peu plus professionnel. Donc ça c'était la première démarche. Et puis après. J'ai dû changer de template, de thème de blog assez rapidement, qui était sous Dotclear à l'époque, pour lui donner un petit aspect un peu plus professionnel. Et voilà. Et après, j'ai rajouté quelques éléments sur le blog, mais pas de changement, pas de révolution. Je me suis pas dit tiens maintenant je vais devenir pro et je vais faire ceci cela comme certains peuvent le faire aujourd'hui, ce qui est une démarche tout à fait respectable. Moi je l'ai pas fait, c'est venu progressivement, quoi. J'ai appris en avançant, quoi. Je suis pas, alors que aujourd'hui si je devais repartir recréer un blog de zéro, et c'est ce qui m'arrive d'ailleurs pour mon propre compte. J'ai créé récemment, j'ai recréé un petit blog personnel où avec d'autres, enfin sans aucun enjeu. Donc ça, la question n'est pas la même. Mais quand il m'arrive de travailler avec des clients pour créer leur blog d'entreprise, la démarche est complètement différente. C'est-à-dire que l'expérience que j'ai accumulée en 5 ans, je la reproduis en quelques jours, quoi. Donc c'est complètement différent.
C'est l'intérêt qu'on a passé des années à s'améliorer dans un domaine. Tu peux nous donner le nom de
Exactement.
ton nouveau blog?
Oui, c'est un blog personnel, donc qui volontairement est tout à fait le contre-pied de Presse Citron. C'est un blog qui est personnel. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas de référencement. J'en parle jamais. J'ai pas fait de lien. Et c'est vraiment un truc de où je me balance quelques petits billets assez courts en général, 2 3 phrases et une photo souvent. On peut dire que c'est presque un photoblog aussi, même si c'est pas un blog de photos d'art, pas du tout. C'est plutôt un blog d'impression au quotidien. Il s'appelle Power Pop.
PowerPop.
powerpop.fr, voilà. Et c'est vraiment un truc personnel sur lequel je publie des petites impressions personnelles, des choses plutôt positives. Donc c'est pas des il y a pas de sujet, il y a pas de grand sujet, il y a pas de sujet polémique, il y a pas de sujet sur lesquels je vide mon sac sur un service qui me plaît pas ou c'est l'inverse, c'est des choses positives, c'est ce que j'ai vu, voilà, un déplacement à Paris, je fais un peu la photo d'un hôtel, la photo d'un coquelicot, enfin voilà, c'est tout simple et c'est vraiment à l'extrême inverse. J'avais expliqué ça dans Presse Citron, c'est ce que j'appelle l'effet poupée russe des blogs, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un blog qui commence à être un peu connu, qui se professionnalise, on a envie d'en faire un autre qui soit à nouveau un petit peu retour aux sources et qui soit un
Ouais.
petit peu comme le premier, quoi.
Donc c'est le blog plaisir, le blog personnel,
Voilà,
sans
c'est
aucun
ça.
enjeu.
Sans aucun enjeu, sans aucune contrainte. Donc voilà, les deux, enfin, j'ai dû écrire 2 billets en un mois dessus. Et puis peut-être que la semaine prochaine, j'en écrirai 5 parce que j'aurai 5 choses à montrer ou à bloguer. Et puis après, il n'y aura plus rien pendant 2 mois. Enfin, c'est vraiment le carnet personnel, quoi.
D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Presse Citron aujourd'hui? Parce
Ouais.
qu'on sait que c'est un des blogs les plus visités de la blogosphère française. Tu en es où à peu près en termes de trafic mensuel?
Par rapport à la dernière fois où on s'était parlé, ça a un petit peu changé encore, puisque là, je dépasse régulièrement les 22, 25 000 visiteurs uniques par jour là, en ce moment, donc ça
Waouh!
tourne plutôt bien. Et les pages vues sont toujours aux alentours, enfin entre 800 000 et 1,2 million selon les mois. J'ai un petit souci avec les pages vues, ça a baissé depuis quelques années, mais je crois que c'est un petit peu arithmétique et c'est un peu pareil pour tous les blogs. Je crois que plus on a de trafic, et plus on a de visibilité qui fait venir des visiteurs de différents médias, c'est-à-dire médias sociaux, flux RSS, etc., et plus le taux de page vue faiblit. Donc, pour donner une idée, au début de Presse Citron, quand j'ai atteint pour la première fois 10 000 visiteurs uniques par jour, c'était il y a 2 ans à peu près, 2 ans et demi, je faisais en moyenne 3 pages vues par visiteur. Et donc c'était énorme parce que ça faisait beaucoup de pages vues sur un mois et aujourd'hui j'ai à peu près le même nombre de pages vues alors que j'ai doublé mon nombre de visiteurs.
Ah oui. Ouais, donc ça montre qu'il y a quand même une partie des visiteurs qui sont un peu touristes, qui viennent pour lire un article et pas plus, et qui
Ouais,
trouvent ça effectivement sur Twitter, sur Facebook ou bien
voilà.
sur
C'est
Scoopéo,
vraiment des, je
etc.
crois que c'est vraiment les habitués qui viennent, souvent c'est des gens qui font partie, je dirais, des visiteurs vi silencieux, c'est-à-dire 90%, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils lisent un article, ils repartent, ils commandent pas, et tout ça c'est lié, je crois que enfin, le tassement du nombre de pages vues peut être corrélé avec le tassement du nombre de commentaires. C'est vraiment les vieux de la vieille, ils viennent, ils ont leurs habitudes, ils ont énormément de sources maintenant, beaucoup plus qu'il y a 5 ans, donc ils n'approfondissent pas une visite, ils viennent, ils lisent un article, ils repartent. Et voilà, il faut faire avec. Moi, j'en ai parlé avec d'autres blogueurs, avec des blogs aussi à trafic assez important. On est tous à peu près sur la même tendance, c'est-à-dire une page et demie vue par visiteur, avec des fois des pointes. Là, ça remonte un peu parce que j'ai eu pas mal de liens ces derniers temps sur des articles. J'ai mis un widget en haut du blog qui fait remonter un petit peu les pages vues. Bon, c'est pas spectaculaire, mais il m'arrive de remonter un petit peu. Par contre, au niveau trafic, j'étais resté stable en 2000, 2010, là, depuis fin 2009, et là, depuis août même, j'allais dire septembre, mais c'est même plutôt depuis août, ça remonte à nouveau très fort.
Alors, tu me disais dans notre dernière conversation que tu as constaté que le nombre de commentaires baisse.
Oui.
Et quelle était la cause dont tu m'avais parlé, d'après toi?
Ça rejoint un peu ce que je viens d'expliquer. Il y a plusieurs. Enfin, moi, je l'analyse comme ça. Je pense que une grosse partie de la fuite enfin, de la baisse du nombre de commentaires est imputée aux réseaux sociaux. Enfin, principalement à Twitter et à Facebook, mais principalement à Twitter, où aujourd'hui, les gens viennent sur un article, n'estiment plus vraiment utile de commenter parce qu'il y a énormément de discussions un petit peu partout. Et
C'est
par contre,
ça.
ils commentent dans Twitter. Donc moi, si je ramenais tous les commentaires que j'ai dans Twitter sur Presse Citron, enfin, je pense que j'aurais un nombre de commentaires à peu près stable. Maintenant, il faut vraiment avoir un sujet qui passionne ou qui soit un peu polémique ou qui soit vraiment un sujet technique précis pour avoir énormément de commentaires. Sinon, moi j'ai fait une comparaison, c'est très intéressant parce qu'avant, Presse Citron était un des blogs les plus commentés par billet. Il y avait un taux de commentaires qui était assez important. Aujourd'hui, les commentaires sont moins nombreux, mais ils sont beaucoup plus dilués. C'est-à-dire que je retrouve des commentaires sur Twitter, sur Facebook, et peut-être ailleurs aussi où je les vois pas forcément. Et par contre, c'est le nombre de retweets qui se substitue au nombre de commentaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, on va prendre un exemple, on va prendre un article lambda. Il avait 30 commentaires, et puis il y a un an, il avait 20 commentaires et 10 retweets, et aujourd'hui, il a 5 commentaires et 25 retweets. Voilà, l'équilibre a complètement changé en fait.
Oui, je vois par exemple qu'intéressant article de Social Network, 41 commentaires, 110 retweets, c'est assez impressionnant, hein. Et
Ouais, voilà, hyper
78
important.
personnes qui l'ont partagé sur Facebook.
Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai eu, bah, je crois que c'était il y a 2 semaines ou 3 semaines, mon record sur Facebook. J'ai un article qui a été liké, enfin qui a été partagé plus de 500 fois sur Facebook. Il a
Wow.
été retweeté, je sais plus combien, plus de 200 fois, il me semble. Et par contre, il a un nombre de commentaires qui est pas du tout en rapport, puisqu'il doit faire 20 ou 25 ou 30 commentaires, je sais plus exactement. C'est le genre d'article, il y a 3 ou 4 ans, qui aurait récolté 150 commentaires.
Ouais, c'est intéressant de constater cette tendance, hein. Les
Ouais.
personnes ont moins envie d'interagir sur le blog avec le blogueur, mais plutôt sur Twitter avec leurs amis. Ou alors, enfin, aussi avec le blogueur, mais pas sur son blog, c'est étonnant.
Voilà, c'est ça. Et j'ai déjà écrit des articles sur le sujet. Enfin, j'ai plus les titres en tête, mais bon, il y en avait un, je crois que c'était commentaire sur les blogs, La Grande Évasion. Enfin, on peut le retrouver dans le moteur de recherche où j'expliquais déjà un peu le phénomène, mais c'est un article qui doit avoir 6 mois ou un an. J'ai dû en faire un ou deux ou trois cette année sur le sujet. Et en fait, bah voilà, il faut le savoir. C'est une donnée qu'il faut intégrer, il faut vivre avec. C'est pas du tout, moi ça me gêne pas. Ça fait partie du jeu, quoi. C'est comme ça. Aujourd'hui, les médias sociaux aussi ont un rôle qu'on pourrait considérer comme négatif par rapport au blog, parce que effectivement, on a beaucoup moins d'interactions. Mais en fait, c'est aussi très positif dans la mesure où ça apporte du trafic, ça apporte de la visibilité. Donc voilà, c'est donnant donnant. C'est-à-dire, je te file de mes commentaires et tu m'apportes du trafic. Et j'ai par exemple été surpris de constater, je l'ai dit dans un article la semaine dernière, que TechCrunch US avait comme premier référent non pas Google mais Twitter.
Ah oui, tiens.
Voilà, donc ça c'est. Alors après, il y a des blogs sur lesquels le nombre de commentaires par article n'a pas changé. Il y a encore des blogs où il y a énormément de commentaires, beaucoup de discussions. Moi, c'est encore le cas, hein. J'ai publié un article hier, il y a 80 commentaires au moment où je te parle, donc il y a encore du monde et de la discussion.
Ouais.
Mais disons que peut-être que Presse Citron est peut-être un petit peu moins. Et c'est volontaire, un petit peu moins personnifié ou personnalisé. Je me suis un petit peu retiré, j'ai un petit peu retiré mon image personnelle du blog pour en faire quelque chose d'un peu plus webzine. Et bah, il se trouve que peut-être aussi les lecteurs se sentent moins impliqués, commentent moins dans ce qu'ils considèrent être moins un blog personnel que sur d'autres blogs. Mais enfin bon, après,
Oui, en tout cas, c'est une
ça,
tendance
ça
intéressante à surveiller.
Voilà, mais ça dépend des sujets, hein. Ça
Ouais.
dépend des sujets. Si demain je fais un gros article sur le SEO, je sais que j'aurai 80 commentaires dans la journée, quoi. Donc ça dépend des sujets. C'est vrai que quand on fait de la news tech et qu'on dit BlackBerry va sortir un nouveau modèle, bon, ça excite pas
Oui, c'est
forcément.
moins motivant.
Ouais, c'est moins motivant pour discuter. Ça veut pas dire pour autant que la news n'intéresse pas les lecteurs et qu'ils l'ont pas lu, mais simplement, bah, c'est vrai qu'il y a parfois des sujets sur lesquels on n'a pas grand-chose à dire, quoi. Tout simplement.
D'accord. Donc, alors aujourd'hui, on sait, tout le monde sait que tu es blogueur professionnel, que bah, tu gagnes ta vie avec Presse Citron, que tu consacres la majorité de ton temps dessus. Est-ce que tu peux nous dire à peu près quel chiffre d'affaires tu fais par mois avec ton blog?
Écoute, j'ai eu l'occasion à deux ou trois reprises il y a quelques années de parler de ça, et malheureusement, c'est toujours des sujets à polémique. Donc, je préfère, enfin bon, on va donner, enfin non, moi j'ai aucun problème avec ça, mais malheureusement, il y en a qui ont un problème avec ça, et c'est très rapidement des sujets de polémique. Donc, c'est toujours mal interprété. En plus, en France, les gens confondent chiffre d'affaires et revenus, etc., etc. Donc,
Ah oui,
c'est quand on
clairement, ouais.
donne. Voilà. Quand on donne un chiffre, il faut passer après un quart d'heure à expliquer ce que c'est exactement, quels sont les revenus exacts, etc., etc. Voilà. Donc, bon, on va dire que les meilleurs mois, je sais pas, j'ai dû faire 15 000 euros à peu près de chiffre d'affaires. Et puis,
Wow.
voilà. Mais c'est pas toujours régulier, hein, donc, il y a des mois qui sont bien, bien moins bons que ça. Et puis, bon, la tendance est bonne, on va dire. Voilà, la tendance est bonne, mais bon, c'est une fourchette, quoi.
Alors, je te rejoins tout à fait sur le fait que parler de son chiffre d'affaires, c'est polémique en France. Moi-même, quand j'ai déclaré que j'avais fait 14 000 euros avec le lancement d'Agir et réussir ma formation pour les entrepreneurs, il y a des tas de gens déjà qui ont cru que c'était du revenu
Ouais, voilà,
et que
voilà.
c'était toujours tous les jours, enfin, pardon, tous les mois le même chiffre d'affaires, quoi.
Ouais, c'est ça.
Alors que bon, il suffit de comprendre qu'il y a des pics, il y a des mois un peu meilleurs que d'autres, des mois un peu moins bons, et puis voilà. En France, il y a un peu je sais pas, cette incompréhension. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas comment on peut gagner de l'argent avec un blog.
Oui, moi j'ai largement, enfin depuis longtemps dépassé ce débat que j'estime complètement has-been, mais donc, enfin, je veux dire, je rentre même plus dans le débat, quoi. Enfin, ceux qui ont envie de polémiquer sur le sujet, qu'ils le fassent, c'est bien, tant mieux pour eux si ça les amuse, mais enfin, ça sera sans moi, quoi.
On est bien d'accord. Alors, aujourd'hui, donc, quelles sont les principales sources de revenus de ton blog? C'est la publicité, c'est les articles sponsorisés?
Alors c'est la publicité,
Ouais.
effectivement. Donc tout simplement, hein, c'est il y a rien, absolument rien d'original ni de révolutionnaire. C'est l'affichage de bannières publicitaires, le contrat avec. Alors jusqu'à présent, je travaillais avec trois régies plus AdSense, et aujourd'hui une régie a réussi à me convaincre de passer en exclusivité. Donc je travaille en exclusivité avec une régie, et en tout cas pour trois emplacements publicitaires premium, on va dire. Et avec quand même la possibilité de gérer moi-même des annonceurs en direct sur d'autres emplacements. Donc les principales sources de revenus, c'est ça, c'est une régie publicitaire donc qui fait tourner mon inventaire et qui est apparemment, depuis que j'ai signé en exclusivité, assez dynamique puisque j'ai sans arrêt de l'affichage. Donc ça c'est la régie. Après j'ai des annonceurs en direct, donc ça ce sont les vignettes publicitaires qui sont en bas de page, dans le footer. Je dois avoir 12 annonceurs, dont la plupart sont des gens extrêmement fidèles sur la durée et extrêmement réglo sur la relation commerciale. Donc c'est en même temps satisfaisant d'un point de vue économique et en même temps très satisfaisant d'un point de vue humain, parce que bon voilà, c'est des gens avec qui je suis presque devenu ami, quoi, parce que c'est une relation sur le long terme. Quand l'année arrive à échéance, ils renouvellent généralement pour une année supplémentaire, donc ça veut dire qu'ils doivent être assez contents des résultats.
Effectivement, ouais.
Donc ça c'est l'autre partie, et puis le reste effectivement c'est AdSense. Puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a effectivement des billets sponsorisés. Billets sponsorisés, j'en fais pas beaucoup. Je dois en faire 4 ou 5 par an, on va dire, un tous les 2 mois maximum. Enfin, j'ai pas compté cette année, mais sur 2010, enfin, je peux me tromper, mais je pense pas en avoir fait plus de 4 ou 5. J'ai une régie là qui m'en a proposé deux de suite, j'ai refusé. Donc, enfin, ma régie justement, j'ai demandé à ce qu'il soit espacé. Et pour un gros annonceur pourtant. Et puis la dernière source de revenus aujourd'hui, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, l'affiliation, que je découvre un petit peu. Donc pour l'instant je tâtonne. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes, il y en a qui le sont probablement un peu moins, et je suis en train d'avancer sur le sujet, de mettre en place un petit peu d'affiliation.
D'accord, ok. Alors, Aujourd'hui, donc
Ça,
tu... Oui?
c'est les, ben oui, pardon, ce sont les revenus vraiment directs générés par le blog, c'est-à-dire en tant que blogueur à 100%. Voilà, ça, c'est les revenus directs générés par le blog. Après, certains considèrent que le blog, c'est aussi effectivement des revenus indirects qui sont liés à la notoriété qu'apporte le blog.
Ah,
Et
tout à
là,
fait,
ben,
oui.
c'est l'autre partie de mon activité professionnelle qui représente à peu près 30 à 40, enfin 30% de mon temps et à peu près autant en revenus, peut-être un peu plus même, c'est l'activité de conseil. Et donc, effectivement, voilà, que j'ai quelques clients en conseil pour ma partie consultant, avec des clients que j'accompagne dans leur stratégie Internet. Donc, j'en ai pas énormément. J'ai toujours trois ou quatre missions en cours. Ça peut être des PME régionales de ma région, mais ça peut être aussi des grosses boîtes. Et donc, c'est effectivement des gens que j'ai connus, enfin, qui m'ont en tout cas contacté parce qu'ils me connaissaient à travers mon blog. Donc, on peut considérer que c'est des revenus indirects qui sont générés par le blog.
D'accord. Alors, est-ce que ça prend beaucoup de temps des blogueurs professionnels?
Oui, ça prend beaucoup de temps et c'est surtout une très grosse contrainte de quotidien. C'est-à-dire que si on veut avoir un blog qui fidélise ses lecteurs et qui apporte du contenu nouveau tous les jours, qui permette d'avoir en même temps effectivement un lectorat régulier et en même temps un contenu qui soit bien indexé régulièrement dans les moteurs de recherche, qui soit repris, etc. C'est une grosse contrainte au quotidien parce qu'il faut écrire tous les jours. Comme moi, je bosse seul. J'ai quelques rédacteurs qui écrivent de temps en temps, mais c'est assez rare, donc je ne peux pas compter vraiment dessus pour me dire, tiens, cette semaine, je vais avoir une vingtaine d'articles écrits par d'autres personnes. Donc ça reste sporadique. Donc en fait, c'est une grosse contrainte en termes d'organisation, parce que il faut se débrouiller, quoi qu'il en soit, pour écrire 4 ou 5, enfin au moins 3 ou 4 articles par jour. Et parfois c'est moins, parfois j'en écris pas du tout parce que je suis en déplacement. Ça sera le cas cette semaine où je pars 2 jours. Et puis il y a d'autres fois où l'actualité est riche. Il y a plein de sujets intéressants. On a la pêche, on a l'inspiration et où on écrit sans aucune difficulté en une demi-journée, une dizaine, 5 ou 6, ou voire une dizaine d'articles. Ça m'arrive aussi. Mais c'est une contrainte parce que il faut être vraiment sur l'actualité en permanence et essayer de trouver les meilleures informations et les publier tous les jours. Donc là, il y a une vraie contrainte et il faut tenir dans le temps. Ça peut être un petit peu usant par moment. Donc effectivement, ça prend du temps. Après, enfin, il s'agit de bien s'organiser, mais l'organisation du temps, c'est pas uniquement la partie. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est pas uniquement la partie visible, c'est pas uniquement les articles. C'est effectivement, bah, de toute façon, tous ceux qui travaillent dans le web le savent, hein, c'est la veille, c'est trouver les articles, trouver les bonnes informations, les vérifier, les publier, écrire l'article. Et puis après, c'est la partie bah, gestion dans les médias sociaux, réponse aux commentaires, réponse, aller voir dans Twitter si ça réagit, réagir aux réactions. Et après,
ça.
il y a toute la partie je dirais administrative, c'est-à-dire comme n'importe quelle entreprise, gérer la partie économique, la partie financière, gérer les annonceurs, j'ai travaillé avec la régie, parfois être en contact téléphonique avec des sources pour vérifier certaines choses, et puis bah, tout ce qui est à côté. Donc en fait, si tu prends déjà le fait que moi écrire c'est en général c'est tous les jours de 7h à midi et demi, 1h. En gros, hein, parfois c'est 8h, parfois c'est 9h, mais la plupart du temps c'est assez tôt le matin. Bon, bah, une fois que j'ai fini cette partie-là, dans laquelle je me déconnecte complètement de l'extérieur, je coupe mon téléphone, je regarde pas mes mails ni rien, je n'ouvre pas les Twitter et Facebook, j'écris vraiment, je source et j'écris. Une fois que j'ai fini cette partie-là, je pourrais considérer que j'ai pratiquement fini ma journée puisque j'ai déjà bossé 5 ou 6 heures. Et en fait, non, puisque l'après-midi, bah, j'attaque l'autre partie, c'est-à-dire la partie conseil, donc bah, rendez-vous avec des clients ou pas rendez-vous, mais travailler sur un dossier, faire un rapport pour un client, et puis après bah, aussi faire sa compta, envoyer ses liasses à son expert comptable, vérifier, etc. Et puis gérer sa relation avec les annonceurs. Après, il y a la partie, alors ça c'est l'après-midi, et puis souvent le soir, bah, il y a un peu de. Soit on rebloque, soit il y a une partie technique, c'est-à-dire bah, gérer le blog, voir si tout va bien, changer, faire un petit peu de maintenance, regarder ses autres sites, faire de la modération, etc. Donc c'est un travail, c'est prenant et c'est sans fin. Alors c'est bien, hein, moi je me plains pas, je l'ai voulu et je l'assume et j'en suis très heureux. C'est surtout, ça prend du temps et c'est surtout contraignant. Mais il m'arrive aussi de lâcher, de dire tiens aujourd'hui j'écris pas et puis je vais faire du vélo, je vais jouer au tennis quoi. Hein, ça arrive aussi. Donc voilà, c'est aussi l'avantage. Je crois que quand on est indépendant, il faut pas s'enfermer et s'emprisonner dans son indépendance. C'est-à-dire que si on a fait ce choix, c'est aussi pour pouvoir profiter, pour pouvoir en profiter et en avoir les aspects positifs. Et j'ai tendance à remarquer, moi, et je le vois même avec mon propre cas, que quand on est indépendant, on a presque tendance à se créer des contraintes presque plus importantes que si on était salarié. C'est-à-dire que on se force à bosser plus, on s'interdit de sortir parce qu'on culpabilise, on s'interdit de faire ceci parce qu'on se dit, ah ouais, mais alors dans ce cas-là, je m'en vais 1 heure, c'est 2 articles en moins, etc. Et à un moment, il faut savoir lâcher un petit peu et dire, bah justement, j'ai fait le choix d'être indépendant, et ben
C'est
c'est
pour en
aussi
profiter aussi.
c'est pour en profiter aussi. Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai rien foutu, je pense pas que je vais travailler.
D'accord. Bon, donc tu arrives quand même un petit peu à équilibrer ta vie pro, ta vie perso.
Ouais,
Ouais,
ça va.
quand tu pars en vacances, t'es pas trop tenté quand même de regarder l'ordinateur pour savoir un peu ce qui se passe?
Si, bien sûr, bien sûr. Je dirais même que quand on part en vacances à l'étranger, souvent pour les vacances d'été, mon pire cauchemar, c'est que moi, je regarde pas trop. C'est souvent ma femme qui choisit la destination. Mon pire cauchemar, c'est qu'il n'y ait pas de connexion Internet là où on arrive. Et donc, j'en suis pas à exiger qu'on choisisse un lieu de vacances en fonction de la connexion, mais à la limite, ça serait assez logique, parce que pour moi, c'est pas une contrainte. Et puis, pour ma femme et pour mon gamin non plus, dans la mesure où ils sont quand même assez connectés aussi. Et finalement, le fait qu'on parte avec un netbook et qu'on puisse de temps en temps se connecter à Internet, tout le monde est content. Donc, c'est pas une contrainte. Et moi, ça me permet aussi, effectivement, de surveiller que tout va bien et puis de temps en temps d'écrire un petit article aussi. Même si cet été, au mois d'août, je crois que j'ai vraiment décroché et j'ai rien fait du tout, mais c'est vrai que dans la mesure où on vit dans le web, qu'on vit du web et que le web fait partie de sa vie, avoir, je dirais, l'exigence ou en tout cas le souhait de ne pas être complètement déconnecté, ça me paraît normal et ça me paraît pas du tout contraignant.
Non.
Ce qui serait contraignant, c'est de dire, OK, même pendant mes vacances, je continue tous les jours au même rythme, à bosser, à être connecté en permanence. Mais ce qu'il faut, c'est arriver à se donner les moyens de pouvoir être connecté quand on en a besoin et puis de savoir se débrancher quand on n'en a pas vraiment un besoin vital, quoi.
Oui, moi je pense que c'est vraiment une chance de pouvoir travailler sur Internet parce que on n'a plus aucune contrainte géographique. On peut
Ouais,
aller
mais c'est
partout
ça.
dans le monde et continuer à gérer ses business au rythme que l'on veut. Il y a quasiment de la connexion partout aujourd'hui. Je crois
Ouais,
que j'ai
tout
vu
à
un
fait. Hein.
article récent sur ton blog où tu disais qu'il y a de la 3G sur le mont Everest.
Ouais, c'est ça. Alors, je suis pas allé vérifier si ça marchait bien, mais en tout cas, effectivement, il y a une borne 3G qui permet de se connecter, paraît-il, du haut de l'Everest.
Waouh! Donc c'est quand même assez incroyable. Bon, il y a encore des endroits où c'est difficile de se connecter, mais évidemment ça va évoluer et d'ici quelques années, il y aura de plus en plus d'endroits où ça sera facile de se connecter à haut débit.
Bien sûr. Hein.
Ok, alors pour terminer l'interview, est-ce que tu peux nous dire, d'après toi, les deux ou trois choses et trois actions que tu as mis en place au niveau de Presse Citron au fil des années, qui d'après toi ont fait la différence et qui t'ont permis de percer dans la blogosphère?
Alors là, tu me prends un peu au dépourvu, mais je vais trouver. Je pense que la première chose, c'est pas une technique ni quelque chose que j'ai mis en place de façon formelle, mais je crois que ce qui a fait que j'ai eu des lecteurs récurrents, c'est le fait que j'ai mis rapidement en place des séries, des rubriques. Et enfin, très modestement, je crois que j'ai été un peu le premier à faire ça, et même le seul. Enfin, je vois qu'après, bon, il y en a pas mal qui l'ont fait, mais c'est-à-dire des rubriques qui étaient soit des rubriques sérieuses, des séries sérieuses, soit des choses un petit peu plus déconnantes, parce que c'est aussi un petit peu la marque de fabrique de Presse Citron, c'est que c'est un blog, un webzine sur les tendances du web, mais je me suis jamais interdit d'écrire un article complètement iconoclaste sur d'autres sujets ou un point de vue un petit peu différent. Et donc en fait, je crois que ce qui a accroché un peu les lecteurs, le fait que, alors je sais pas si c'est quelque chose qui a permis d'aller les chercher, mais en tout cas ça a permis de les retenir. C'est des rubriques récurrentes. Alors, soit des rubriques régulières, c'est-à-dire par exemple, bah, tous les vendredis, il y avait telle rubrique. Je parle un peu au passé parce que j'en ai moins en ce moment et je cherche un petit peu des idées de nouvelles rubriques.
D'accord.
Donc, des séries, je sais qu'une des premières que j'ai lancées, c'était à l'époque du Web 2, on parlait beaucoup d'Ajax. Bon, j'avais fait, ça devait être ma première série, c'était 30 sites Ajax en 30 jours. Voilà, donc tous les jours, je présentais un nouveau site conçu en Ajax, comment il fonctionnait, etc., etc. Et puis après, y a eu pas mal de séries, il y a eu Parole de blog, il y a eu les Happy Hours, c'est-à-dire tous les vendredis en fin de journée, avant le week-end, je publiais une musique que j'aimais bien et qui n'était pas trop connue. Et puis voilà, bon, des séries comme ça, il y a eu la série Dis-moi comment tu blogues aussi, où j'ai interviewé un peu comme tu le fais aujourd'hui, mais par écrit une quinzaine de blogueurs pour leur demander. C'était une série d'une quinzaine de questions. Toujours les mêmes, c'était le même modèle, même moule, même question, et il répondait à cette question, c'est comment tu blogues, quand, avec quoi, etc., etc. J'ai fait une autre série, c'était le mystère des blockbusters, où j'expliquais justement, voilà, c'était des séries sur les gros sites ou les gros blogs. Le pitch, c'était des personnes indépendantes qui travaillaient seules et qui avaient réussi à monter un site qui cartonnait, qui faisait beaucoup de visiteurs et qui leur permettait de bien gagner leur vie. C'est un peu ce que tu fais aujourd'hui dans ta série là. J'ai fait d'autres séries comme ça, il y en a eu plusieurs. Et puis, donc, je pense que ça a été quelque chose qui était apprécié, qui a permis de fidéliser les lecteurs. Après, après, c'est plus des choses techniques, effectivement. Probablement des plugins sur Précitron qui ont permis d'augmenter d'améliorer le référencement, d'améliorer l'interactivité, bon, les plugins de suivi de commentaires. Enfin, qui sont sur tous les blogs aujourd'hui, mais qui n'existaient pas, faut le savoir, qui n'existaient pas il y a 5 ans. Hein, sur la première version de Presse Citron, qui jusqu'en 2007 était sous DotClear, il n'y avait pas de suivi de commentaires, et donc j'avais fait développer un plugin par un camarade qu'on avait après que j'avais moi-même packagé pour le proposer en plugin, en extension à la communauté DotClear, et qui a dû être installé sur pas mal de sites, sur pas mal de blogs DotClear. D'ailleurs, c'est étonnant aujourd'hui de voir que même sur les dernières versions de WordPress, sauf erreur de ma part, il n'y a toujours pas de suivi de commentaires et qu'il faut toujours installer un plugin pour avoir le suivi des commentaires.
Faut installer un plugin. D'ailleurs, ça a été très demandé pour WordPress 3, mais apparemment, les développeurs de WordPress ont dit, bah, ça sert à rien, il y a ce plugin qui marche bien.
Voilà.
Donc, on va pas s'embêter
Donc,
à mettre ça.
voilà.
Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça montre la chance qu'on a aujourd'hui avec WordPress. Donc, hein, tu es passé en 2007 de DotClear à WordPress. La chance qu'on a aujourd'hui
Ou
avec
deux.
WordPress d'avoir autant de fonctions extraordinaires gratuitement, grâce aux milliers de plugins disponibles. Et comme tu le dis très bien, il y a quelques années, ça n'existait pas. Et pour certaines fonctions qui paraissent aujourd'hui basiques, il fallait faire appel à des développeurs. Qu'on devait payer ou qu'on soit en bière, soit vraiment en monnaie sonnante et trébuchante
Exactement ça.
pour avoir tout ça. Ok, donc effectivement, donc si j'ai bien compris, il y a des plugins qui permettent l'interactivité et le suivi de ton blog plus facilement par tes lecteurs.
Ouais, c'est ça. Et puis après, je sais pas, bah, peut-être plus récemment, la republication automatique de mes billets dans Twitter et Facebook, qui a les effets induits dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire une dispersion des commentaires, mais qui en même temps, indéniablement, apporte du trafic.
Très
Qui
bien.
apporte du trafic et de la visibilité. Voilà.
Alors pour finir, est-ce que tu pourrais donner un conseil pour ceux qui se lancent avec leur blog et qui aimeraient devenir blogueurs professionnels dans les mois ou les années à venir?
C'est difficile, mais il y aurait plein de choses à dire. On pourrait même presque écrire un bouquin
On
sur la
peut écrire un
question.
bouquin, oui.
Mais pour être synthétique, je pense qu'il faut déjà avoir effectivement de la constance et de la régularité, c'est-à-dire se dire, ça dépend quel est l'objectif, mais si effectivement si l'objectif est de faire quelque chose de professionnel, il faut déjà s'inspirer toutes les bonnes pratiques qu'on a vues, qu'on peut voir piocher ici et là sur Internet, et puis donc faire déjà, je pense qu'il faut déjà faire une bonne recherche documentaire avant de se lancer. C'est compiler des documents, chercher sur Google, tous les articles qui parlent de blog, comment réussir un blog, comment être un bon blogueur, comment s'améliorer, comment créer son blog, etc., etc. Parce que même s'il y a des articles qui reprennent les choses vraiment basiques, c'est bien parfois d'avoir vraiment les basiques. Ensuite, il faut se dire, il faut se fixer un objectif, et puis alors ça peut être un objectif en termes de vraiment chiffrés, c'est-à-dire bah voilà, je crée mon blog et mon objectif c'est que au mois N plus 6 et j'ai atteint tel trafic. Ça peut être aussi d'autres objectifs moins quantifiables, c'est-à-dire dire bah voilà, il faut que je consacre tant de temps à ce blog sur la semaine. Ou alors, ce blog doit m'apporter la notoriété qui va me permettre de faire connaître mon business ou des choses comme ça. Et puis après, il faut s'y tenir, c'est-à-dire, enfin, si on dit voilà, je lance un blog professionnel et puis je vais vraiment essayer d'en faire quelque chose de viable, et eh ben, il faut savoir quel temps, quelle part de son temps on est capable d'y consacrer. Et dans quelle mesure et comment tout ça s'articule avec sa vie professionnelle? Est-ce que ça va empiéter? Est-ce que ça va faire partie de son activité professionnelle? Dans quelle mesure? Et savoir où on place exactement le curseur par rapport à ça. Et puis après, ça me paraît évident, mais je le dis quand même parce qu'en général, si on veut bloguer, c'est qu'on a un sujet de prédilection ou qui tient à cœur. Mais il y a aussi d'autres personnes maintenant qui ont une démarche complètement différente, c'est qu'ils disent je vais créer un blog et je veux créer un blog, mais je vais d'abord créer mon blog, je vais chercher un sujet. Bah à ce moment-là, il vaut quand même mieux que, enfin, parler d'un sujet qu'on connaît, qu'on maîtrise, et surtout après savoir gérer sa communauté, c'est-à-dire être réactif, répondre, animer, répondre aux commentaires, gérer, modérer, etc. Donc tout ça, il faut se dire dès le départ. Peut-être se faire un petit plan de bataille. Je vais pas appeler ça un business plan, mais pourquoi pas, en quelques points, en disant bah, voilà les contraintes, voilà ce que je vais pouvoir apporter, voilà quelle est ma valeur ajoutée et comment moi je vais pouvoir me distinguer sur tel sujet. Voilà. Parce qu'il y a l'angle aussi, c'est intéressant. Alors ça c'est plus un terme journalistique, mais c'est dire bon, je vais faire un blog. Par exemple, je sais pas, je vais faire. Moi j'aime bien la voiture. Je vais faire un blog sur l'automobile. Mais des blogs sur l'automobile, il y en a plein. C'est un marché qui est très encombré, voire saturé. Qu'est-ce que je vais pouvoir moi apporter? Quel va être mon angle? Je vais parler de bagnole, mais quel va être mon angle? Et à partir de là, ben, lister un petit peu tout ce qui se fait, puis dire ben moi, mon angle, ça va être un angle complètement original. Je sais pas, je vais faire que des vidéos que des vidéos en caméra embarquée, par exemple. Voilà, c'est un angle.
Oui.
Voilà. Donc après, c'est alors moi j'appelle ça un angle en termes de c'est un terme un peu journalistique. D'autres appelleraient ça une niche, c'est-à-dire trouver la bonne niche dans un secteur qui est déjà encombré. De toute façon, il faut bien dire que sur les blogs, enfin tous les sujets sont traités. Donc après, il faut savoir comment on va les traiter, comment on va se distinguer. Des blogs high-tech comme Presse Citron, il y en a des dizaines et des dizaines. Et puis il y en a des excellents, peut-être même meilleurs que Presse Citron. Mais moi, j'ai eu la chance d'arriver un petit peu avant les autres, quoi. C'est tout. Donc après, il y a de la place pour tout le monde. Il faut trouver le bon angle. C'est tout.
Oui, je pense que c'est vraiment un excellent conseil. D'ailleurs, en marketing, on appelle ça le positionnement. Et basiquement, il faut repérer des besoins qui sont pas comblés sur le marché. Alors bon, on peut dire marché hein, pour la blogosphère. Trouver quelque chose qui est un besoin qui est pas comblé chez les lecteurs de la blogosphère, et puis le combler. Alors effectivement, c'est trouver une niche. Alors la niche, ça peut juste être une manière de s'exprimer, avoir un angle d'attaque, comme tu dis, qui soit différent, même si le sujet est le même, et qui fait qu'il y a des lecteurs qui vont nous préférer à tous les autres blogueurs sur le même sujet.
Exactement. Exactement, c'est ça.
Ok, bah très bien, Eric, merci pour tous ces excellents conseils. En plus, on a eu un très bon aperçu de ton parcours et tout ce que tu as fait pour faire de Presse Citron le blog de référence qu'il est aujourd'hui. Donc, merci d'avoir été avec nous.
De rien, c'était avec plaisir.
Et à très bientôt pour de nouvelles aventures.
Très bien, ça marche. Au revoir, Olivier.